Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Escale, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, direction la République démocratique du Congo, pour s'intéresser aux activités périlleuses et ô combien utiles de l'UNMAS, le service d'action anti-mine des Nations Unies. Et pour nous en parler, Pascal Simon, il dirige depuis un peu plus d'un an le programme à Kinshasa. Pascal Simon, bonjour.
Bonjour.
Pascal Simon, vous êtes directeur du programme de l'UNMAS en RDC. L'UNMAS, donc, qui, par rapport à la mission de maintien de la paix qui est déployée sur place, la MONUSCO, donc, fait un travail très typique, notamment sur le problème des mines. Alors, d'abord, le parcours. Comment vous avez été amené à être nommé directeur du programme de l'UNMAS ?
Eh bien, je travaille dans le secteur de la lutte anti-mine depuis plusieurs années déjà. J'ai été impliqué dans la mise en place de la campagne internationale contre les mines antipersonnelles, qui a conduit à la Convention d'Ottawa, qui est interdit les mines antipersonnelles. Donc ça fait longtemps. J'ai travaillé aussi pour le PNUD, j'ai travaillé pour la Commission européenne et j'ai travaillé récemment pour le Centre international du déminage humanitaire de Genève également. Je suis en RDC comme directeur de programme d'UNMAS depuis un an et quelques mois.
Alors, quelle est la spécificité du défi en RDC ?
Alors, bon, le défi important, bien sûr, c'est la taille du pays. Le pays est vraiment très, très vaste. Les difficultés logistiques. Donc, il y a des zones où nous souhaiterions intervenir, mais c'est très difficile d'accès. Ça, c'est une des difficultés. Une autre difficulté, en tout cas, un autre défi, c'est la persistance des conflits dans l'est du pays, qui nous interdit également d'aller dans certaines zones, bien évidemment, pour des raisons de sécurité, mais qui continue à créer une contamination en raison du conflit et de l'utilisation d'armes et de munitions. Donc dans ces zones-là, nous avons parfois des mines, mais pas toujours, mais nous avons surtout une contamination très importante par engins non explosés, qui représente bien évidemment aussi un danger pour les populations civiles.
Alors pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un engin non explosé ?
Alors un engin non explosé est différent d'une mine. Une mine, tout le monde voit un peu ce que c'est. C'est un engin qu'on enterre ou qu'on cache, qui a pour vocation donc, de tuer ou de blesser un individu qui va passer par là et la déclencher. Les engins non explosés sont des mortiers, des bombes, des grenades qui ont été tirés, qui ont été lancés, qui ont été utilisés, mais qui pour diverses raisons n'ont pas fonctionné. Et donc on a des engins qui sont instables, qui se trouvent dans les zones de conflit et qui ont évidemment un impact négatif pour la sécurité de ces populations. Donc disons que pour nous, de toute façon, c'est un peu la même chose que les mines, il faut quand même les nettoyer, les enlever et les détruire.
Quelle est l'ampleur du défi ? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'armes donc, et d'engins non explosés à l'est de la RDC ?
Oui, tout à fait. Nous avons récemment terminé une enquête nationale sur la présence des mines antipersonnelles et la contamination. Donc on a découvert que cette contamination était relativement modeste en ce qui concerne les mines, mais nous allons néanmoins aider la RDC à s'en débarrasser parce que c'est une obligation de la Convention d'Ottawa. Par contre, la contamination par engins non explosés est beaucoup plus importante, touche beaucoup plus de zones et notamment dans les zones de l'Est maintenant, en particulier donc dans le Nord Kivu où il y a eu des combats importants, la contamination est très très importante.
Alors on a tendance à croire que les combats qui ont lieu justement à l'est de la RDC sont des combats un peu de rebelles, de milices, donc des combats avec des armes légères, des machettes et finalement presque une guerre artisanale. Or apparemment ce que vous dites c'est que vraiment ce sont de véritables forces armées avec des artilleries qui s'affrontent.
Tout à fait. Si vous prenez le cas du M23, le groupe qui a été défait récemment conjointement par la brigade d'intervention de la MONUSCO et les forces armées de la RDC, le M23 était bien armé et le conflit qu'il a opposé aux forces armées de la RDC ressemblait à n'importe quel type de conflit conventionnel, avec effectivement artillerie et avec même l'usage de moyens aériens. Donc tout cela a un impact important, notamment dans les villages qui ont fait l'objet de ces combats.
On parle justement de la difficulté donc d'accéder à l'est du pays en raison notamment des contraintes sécuritaires. On sait que par ailleurs donc la MONUSCO s'est vue dotée d'une brigade d'intervention rapide, mais également depuis peu de drones de surveillance. Est-ce que ce type d'engin peut vous aider déjà à recenser les différents stocks, les arsenaux qui sont mis à disposition des groupes rebelles ?
Non, pas vraiment. Je pense que l'usage des drones en plus est assez réglementé et est réservé à la surveillance des zones frontalières. Donc nos sources d'informations sont plus directement liées à la présence de combattants et au fait qu'il y a eu des combats qui ont posé les différentes parties dans ces zones-là.
Alors vous parliez donc du processus d'Ottawa avec oui. Donc des mines que l'on a connues dans d'autres endroits. En quoi en RDC donc c'est particulièrement difficile donc d'accéder à ces fameux engins non explosés ? Comment vous faites ? Est-ce qu'il y a une logistique particulière ?
à mettre en place?
Bien sûr, les moyens doivent être importants en logistique parce que les routes sont mauvaises, parce que la sécurité n'est pas toujours bonne. Donc il est important parfois de se faire accompagner par une escorte armée de la mission, de la MONUSCO. Et il y a des endroits qui sont aussi extrêmement éloignés avec très peu de population. Donc la manière de prioritariser les opérations dépend des demandes que nous avons de la mission. La mission peut nous demander de les soutenir dans leurs opérations en intervenant dans certaines zones ou, par exemple, d'aller nettoyer des villages qui sont contaminés pour permettre aux populations déplacées par les combats de pouvoir y revenir. Et donc, toute la difficulté et le défi est justement d'essayer de prioriser nos actions pour nous assurer qu'on a l'impact le plus important possible.
Alors, est-ce que ça veut dire que neutraliser ces engins, ça veut dire c'est les détruire sur place? Est-ce que ça veut dire les transporter dans un lieu sûr où ils seront détruits?
La plupart d'entre eux peuvent être transportés. Certains sont trop instables et doivent être détruits sur place. Donc, généralement, nous avons un endroit spécial pour les démolitions qui se trouve un peu à l'écart, évidemment, pas près des populations civiles. Et donc, on détruit tout ce qu'on trouve généralement un peu à l'écart.
Alors, on parlait des mines, on parlait des engins donc non explosés. Mm-hmm. Il y a également le problème donc de tous ces groupes rebelles qui ont été démobilisés et qui également donc aujourd'hui doivent être désarmés. Est-ce qu'également l'UNMAS a un rôle à jouer avec donc la MONUSCO?
Tout à fait. Donc nous appuyons nos collègues du programme de démobilisation qui récupèrent donc les armes des ex-combattants. Nous les rassemblons, nous les collectons, nous enregistrons ces armes et nous les détruisons. C'est souvent l'occasion d'une opération un peu symbolique où on coupe ces armes, où on fait venir des anciens combattants, où les forces de la MONUSCO sont là, les autorités locales, chefs du village, etc. Et donc symboliquement, toutes ces armes sont coupées avec des machines spécifiques que nous utilisons pour cela, afin de démontrer qu'elles ne seront plus réutilisées.
Est-ce qu'il y a des réactions hostiles, donc pas tellement des populations, mais plus justement des militaires qui sont démobilisés de voir ces armes détruites?
Non, généralement, les militaires démobilisés sont plutôt heureux, je pense, d'arrêter avec ces combats. C'est quand même une vie un peu misérable et difficile. Ce qui est très important, c'est que nous devons vraiment assurer qu'ils soient appuyés dans leur travail de réinsertion. Ça, je crois que c'est vraiment le plus important, pour éviter qu'ils ne retournent évidemment au combat si on ne pouvait pas les réinsérer dans la vie civile.
Alors là, on parle d'armes qui sont des armes finalement relativement courantes. Est-ce que de façon générale, le coût d'une arme qui par définition elle-même est peu chère, est-ce que c'est proportionnel? Est-ce qu'il y a un ratio entre le coût de l'arme et sa destruction?
Non, la destruction est quand même quelque chose qui est relativement modeste en termes de coût, puisque c'est un petit peu de main-d'œuvre, mais c'est pas grand-chose. Et puis, c'est les machines que nous utilisons qui sont des machines relativement simples, qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars. Ce qui est vraiment impressionnant en RDC, c'est la circulation massive d'armes. Vous parliez des Kalachnikovs, mais en réalité, il y a des armes qui viennent de tous les pays du monde. Et quand on fait ces destructions, on voit vraiment que ça vient de partout, d'Europe, d'Amérique, de Russie. Et donc, on se rend compte que le problème, bien évidemment, il faut les détruire, celles qu'on peut récupérer, mais il faudrait peut-être essayer de contrôler aussi, évidemment, un petit peu plus la circulation de ces armes. C'est d'ailleurs pour cela que nous essayons aussi de sécuriser dans nos activités les armeries et les stocks d'armes et de munitions des forces armées de la RDC pour éviter qu'elles ne disparaissent et qu'elles ne se trouvent dans mauvaises mains.
Alors, il y a ce risque-là, mais il y a aussi le risque qu'on a vu dans le Congo voisin où il y a eu un arsenal qui a explosé et qui a créé un véritable drame.
Alors, vous parlez donc, effectivement, de l'explosion de Mpila, qui est un stock d'armement des forces armées du Congo. Nous sommes intervenus là-bas, en réalité, après ce drame, et nous essayons de tout faire en RDC pour éviter ce type d'accident. Par exemple, avec le financement de la MONUSCO, nous avons construit un nouveau stock de munitions pour les forces armées de la RDC dans la ville de Kisangani, parce que l'endroit où étaient entreposées les armes et les munitions se trouvait à côté du quartier général de la MONUSCO dans la ville de Kisangani. Et donc, en cas d'accident, ça aurait eu un impact extrêmement dramatique. Donc, on a construit un nouveau bâtiment aux normes internationales qui va servir maintenant d'exemple pour d'autres réalisations de ce type dans d'autres endroits de la RDC.
Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui sécuriser? Ça veut dire qu'il faut que ça soit au sec, il faut qu'il y ait des conditions particulières?
Voilà, il ne faut pas que toutes les munitions soient au même endroit. Il faut qu'elles soient réparties selon le calibre, selon la dangerosité. Une autre chose, c'est la solidité aussi du bâtiment, en particulier du toit, pour éviter les projections de munitions vers d'autres bâtiments qui pourraient également causer plusieurs explosions. Et alors, il y a les distances de sécurité. On va s'assurer que les bâtiments sont séparés suffisamment des uns des autres. Et puis, il y a aussi simplement avoir, par exemple, de l'eau à disposition pour éteindre des incendies ou des choses comme ça.
Est-ce que ce genre de mandat de l'UNMAS, c'est donc de désarmement, de destruction des engins, terrain de sécurisation des arsenaux. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui motive les pays donateurs?
Écoutez, c'est toujours une difficulté, bien évidemment, de mobiliser des ressources pour nos activités, puisque un pays comme la RDC a de nombreux défis. Mais enfin, je pense que tout le monde comprend l'importance pour les Nations Unies d'avoir une capacité de nettoyage de ces engins non explosés, parce que tous ces combats, évidemment, ont un impact direct sur la population civile, voire même sur le personnel des Nations Unies. Donc, c'est important. Maintenant, on souhaiterait toujours peut-être avoir plus de moyens pour faire plus, évidemment.
Alors, vous parliez de la cause et finalement des conséquences. Vous êtes un peu le pompier qui essaie d'éteindre l'incendie, mais hélas, souvent, il est allumé en amont. Est-ce qu'également, toutes les initiatives qui avaient été prises dans le sens d'une traçabilité des armes, d'un contrôle du commerce illicite et autres, avec les traités qui ont été adoptés récemment, est-ce que ce sont des choses qui sont à même de vous aider?
En théorie, oui. Comme vous faisiez référence donc au traité sur le contrôle des armes récemment, il reste encore à être vraiment mis en œuvre. Il faut aussi renforcer la capacité du gouvernement, de la RDC elle-même, pour qu'elle puisse contrôler ses frontières, qu'elle puisse faire régner l'ordre sur son territoire, de telle manière à ce que les groupes armés ne soient pas tentés de faire venir des armes des pays voisins. Donc tout est lié. La stabilité du gouvernement, le renforcement de la capacité du gouvernement à assurer l'ordre, la réforme des forces armées de la RDC, la réforme de la police, tous ces secteurs sont liés et permettront, nous l'espérons, à ce que ces groupes armés soient neutralisés, à ce que la population puisse vivre en paix et à ce que le besoin de s'équiper en armes n'existe plus.
Quelle échéance parle-t-on aujourd'hui? Donc vous êtes là depuis quelques mois donc sur place, vous dirigez ce service, vous avez déjà amélioré les choses. Est-ce qu'il vous faut 5 ans, 10 ans? Est-ce que c'est un travail qui doit être poursuivi et maintenu?
Alors, d'une manière générale, la lutte anti-mine, la dépollution d'engins non explosés est quelque chose qui dure très longtemps. Je disais tout à l'heure toutefois que la contamination par mine antipersonnel est relativement modeste et on pense que dans les 4-5 années prochaines, on devrait pouvoir l'éliminer et on devrait donc permettre à la RDC de satisfaire aux exigences de l'article 5 de la Convention d'Ottawa, qui oblige à déminer, en fait. Donc, bien sûr, les Nations Unies sont là pour aider la RDC à faire cela. Il s'agit d'un travail humanitaire, donc nous souhaitons aider la RDC à le faire. Par contre, parler de la menace que représentent les engins non explosés, il s'agit de quelque chose qui est de beaucoup plus longue ampleur, parce qu'on retrouve des engins non explosés des dizaines d'années après. Et donc, il est important de doter la RDC d'une capacité nationale pour faire face à cela, c'est-à-dire former des équipes au sein des forces armées et de la police nationale.
Alors on le sait, il y a un impact économique de certaines zones qui sont gelées. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est chiffré cet impact et la récupération des terres et des zones ainsi libérées?
Non, c'est difficile à chiffrer vraiment. Par contre, il est évident qu'il y a un impact économique. Il y a le fait que la pollution bloque l'accès à certaines ressources, qu'il y a certaines routes qui ne peuvent pas être utilisées, que les personnes déplacées ne peuvent pas retourner dans leur village d'origine. Il y a 2,5 millions de personnes déplacées en RDC. Et donc, on souhaiterait bien évidemment que dans le cadre de la stabilisation, ces personnes puissent rentrer. Donc il y a dans un certain nombre de cas, particuliers dans l'Est, où les combats ont eu lieu récemment, où il y a un danger pour ces populations de revenir dans leur village d'origine, parce qu'évidemment les enfants vont rencontrer ces engins explosés, risquent de les saisir, on a des accidents d'enfants qui saisissent des grenades et des choses comme ça.
Justement, Pascal Simon, on reparlait de votre parcours au Centre international de déminage humanitaire de Genève, le PNUD, la Commission européenne, donc l'ONU maintenant et l'UNMAS. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller dans ces domaines-là?
Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans des ONG qui apportaient un service aux personnes handicapées, en particulier aux personnes réfugiées. Et j'ai commencé à travailler dans les camps de réfugiés afghans à la frontière pakistanaise. Et nous avions donc dans notre province, au Baloutchistan, 1 million de réfugiés afghans dont on devait s'occuper, et ça comportait un grand nombre de personnes handicapées. Et parmi ces personnes handicapées, il y avait évidemment beaucoup de personnes qui étaient blessées par mine. Et nous voyions à cette époque arriver des gens qui faisaient plusieurs jours de transport à Dodane, voire parfois avec des béquilles, et qui avaient explosé sur une mine, et qui arrivaient au Pakistan et qui se faisaient soigner dans les hôpitaux du CICR à la frontière. Et puis nous nous sommes dit, il faudrait peut-être faire quelque chose, et plutôt que de soigner ces gens, d'éviter peut-être que ces accidents se produisent. Et c'est comme ça que nous avons lancé la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Donc voilà, la motivation est là, c'est une motivation surtout humanitaire, et c'est de se débarrasser de ces armes qui en fait ont un impact épouvantable sur les populations civiles.
Pascal Simon, merci.
Merci à vous.
Voilà, et c'est avec Pascal Simon du service anti-mine des Nations Unies en RDC que se referme ce magazine Escale, un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et retrouver sur Internet tous les programmes de la Radio des Nations Unies en français en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.